Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui, on a un épisode du podcast des maternelles qui va être bien cool, je vous préviens, c'est le podcast France Télé, c'est parti. Le podcast des maternelles, et aujourd'hui on va parler, intitulé, franchement, il est pas mal, 4 générations sous le même toit. Oui, 4 générations sous le même toit. Imaginez, vous vivez avec votre fils, votre mère et votre grand-mère. Et ben voilà, c'est exactement ce qui se passe pour Marion qui va venir nous raconter son histoire. Alors bien sûr, avec les bons côtés, on est en famille, on peut s'entraider, etc. Et les moins bons côtés que, bon, je n'ai pas besoin de détailler, vous imaginez. Donc on écoute Marion et puis on en parle avec une psy, Sophie Brown, juste après, c'est parti.
Non mais vous imaginez cohabiter avec dans la même maison avec ses enfants, ses parents, ses grands-parents très très âgés. Bah, c'est votre cas Marion.
Oui.
Bonjour, merci bonjour. D'être avec nous. Vous avez choisi cette vie avec votre fils de 10 mois, vous avez 32 ans, vous êtes streameuse, on sait ce que c'est streameuse grâce à Yasmine Ouglise. Streameuse, c'est donc créatrice de contenu.
Oui c'est ça. Bien.
Merci Yasmine. Vous êtes donc streameuse sur les réseaux sous le pseudo Naomé et vous avez eu une grossesse surprise en fait et une rupture amoureuse et donc vous avez décidé de vivre en Bretagne sous le même toit que votre maman qui a 54 ans et votre grand-mère qui en a 94. Alors nous on a très envie de savoir comment ça se passe cette cohabitation en famille. Dans quel genre de famille est-ce que vous avez grandi vous? Est-ce que les générations se mélangeaient facilement? Est-ce que c'était dans les mœurs déjà?
Oui on peut dire ça. J'ai grandi et j'ai été élevée par ma maman, mes parents ayant divorcé très jeune. Du coup, on était beaucoup plus du côté maternel de la famille. On se réunissait vraiment tous les week-ends, on allait chez mes grands-parents. Donc cette maison qui est la mienne aujourd'hui, dans cette maison, j'y ai beaucoup de souvenirs déjà et j'ai passé beaucoup de moments, oui.
Oui, c'est ça. Donc génération de femmes. C'est et ça. Des femmes qui étaient comment? Qui étaient assez indépendantes?
Oui, quand même. Ben, ma grand-mère s'était émancipée. À l'époque, la majorité était à 21 ans. Donc, elle avait demandé de l'émancipation avec l'accord de ses parents pour ouvrir son commerce à 18 ans. Et ma mère, elle, faisait de l'humanitaire. Elle a fait le Sri Lanka, le tsunami, les ouragans dans les Caraïbes, etc. Elle partait en mission régulièrement.
Oui, donc vous avez des modèles qui sont des modèles de femmes fortes.
Oui, hein, assez indépendantes.
Alors, vous habitez en couple à Lille quand vous apprenez votre grossesse. Oui. Tout ça, ça vous a mené à la rupture avec votre compagnon. Quand et comment est-ce que vous avez pris la décision de déménager?
Au début, je pensais pouvoir tenir toute la grossesse sur Lille. Et puis finalement, j'étais très malade. Il y a un deuxième confinement qui s'annonçait. Donc pour moi, les signaux étaient un petit peu au rouge. Ma mère... dès le début, m'avait dit « quoi qu'il arrive, de toute façon, je serai derrière toi ». Et du coup, elle m'a proposé assez rapidement de revenir à la maison en me disant « je serai là pour veiller sur toi ».
Et dans votre tête, c'était quoi? C'était temporaire?
Ben non, en fait, du coup, je m'étais dit « bon, ben, je rentre à la maison, je pense que c'est définitif ». Ma grand-mère ayant fait ses affaires avec la maison, aujourd'hui, c'est ma mère qui est propriétaire de la maison avec ma grand-mère à charge. Et je suis fille unique, donc je suis normalement l'héritière, je veux dire. Et jusqu'à présent, j'ai fait que payer des loyers, donc là, j'ai envie de... C'est une sécurité financière pour moi, émotionnelle, affective. Enfin, j'y gagne sur tous les plans, je trouve, actuellement, d'être...
Vous vous sentiez un petit peu seule, quand même, j'imagine?
Ah bah oui, complètement. J'étais vraiment seule. Dans mon 30 mètres carrés à Lille, je ne me sentais pas très bien, non.
Alors, vous êtes installée donc en Bretagne avec votre maman, votre grand-mère, juste après l'échographie du premier trimestre.
C'est ça.
J'imagine que là, vous vous êtes sentie tout à coup entourée, protégée.
Bah oui, c'est agréable d'avoir des femmes d'expérience autour de moi qui ont elles-mêmes expérimenté la maternité. Et du coup, quand j'avais des questions, ben, j'allais leur poser. Je me souviens, en pleine nuit, j'ai réveillé ma mère parce que je ne savais pas ce qui se passait. Il y avait des mouvements dans mon ventre et en fait, c'était le hoquet. Je ne savais pas et du coup, je me suis dit, il y a un problème là. Je suis allée la réveiller en pleine nuit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle m'a rassurée et puis... voilà, ça s'est bien passé.
Après. C'est le hockey.
Ouais, c'est ça, exactement ça.
Je vois très bien. Alors, le 8 mars, journée des droits de la femme, oui. Vous accouchez prématurément de votre fils à 32 semaines d'aménorrhée plus 6 jours. Vous avez eu un HEP syndrome, en fait. Oui, on en a parlé souvent dans cette émission. C'est une grave atteinte du foie, donc c'était quand même pas rien. Vous avez même eu un séjour en réanimation. Bon, ça a été rock'n'roll. Pendant cet accouchement et le mois d'hospitalisation qui a suivi en néonate, votre maman, j'imagine, a été un soutien indéfectible.
Ma maman a été Oui, là, je ne sais pas comment j'aurais fait sans elle, vraiment. Elle a pris la place d'accompagnant, en plus, en cette période sanitaire un petit peu compliquée où on n'a le droit qu'à une personne, et normalement, c'est la personne avec nous en salle d'accouchement. Dans mon cas, bah, c'était ma maman, il n'y a pas de papa. Du coup, elle a été là, elle faisait les navettes entre la néonate et la réa pour m'amener des photos, pour que je puisse voir le petit, parce que pendant 5 jours, je ne pouvais pas le voir. Non, vraiment, elle a largement surpassé son rôle de grand-mère, je pense, dans cette situation.
Alors, vous nous avez confié un court extrait de la rencontre de votre bébé, justement, à l'hôpital, avec votre grand-mère, avec son arrière-grand-mère. On regarde ça.
Une miniature.
Oui, il est beau. Oh, il a un joli petit bonnet sur la tête. Et ses petites mains. Petite miniature, quoi. Oh, la petite voix. Laissez-moi tranquille, c'est ça qu'il veut dire. Et à quelle heure il a sa gougoute?
Elle n'est pas un peu belge, votre grand-mère?
Non, elle est bretonne.
Elle est bretonne, parce qu'elle est... Là, on dirait peut-être quelqu'un
C'est l'accent
de Charleroi. Ah, c'est ça, c'est l'accent du coin. Il y a beaucoup de points communs. Trop mignonne, en tout cas. Est-ce que vous n'avez pas eu peur que ça la gêne un petit peu, ces cris de bébé?
Si, au début, je m'inquiétais un petit peu de ça, parce que du coup, c'était quand même imposé pour elle. Je veux dire, elle n'a pas eu trop son mot à dire. Et puis, en fait, aujourd'hui, je me rends compte qu'elle s'adapte très bien, voire même, bah, du coup, quand je m'absente, elle est là. Mais non, mais quand même, il me manque, il y a un vide, il manque quelque chose. Donc, elle préfère quand on est là, finalement.
Alors, là où on vous envie, mais c'est au-delà de la jalousie. C'est qu'évidemment, votre maman a pu faire quelques nuits.
Oui.
Bon, je devais votre maman, 54 ans.
Je devais tirer mon lait quand même pour l'organisation parce que j'allaite. Mais effectivement, j'ai eu des débuts de nuit difficiles en début de grossesse. Il faisait du reflux gastro-œsophagien. Du coup, je pouvais...
Oui, donc il pleurait beaucoup.
Ouais, ouais. Et elle a pris le relais à ce moment-là. C'était quand même une grande aide.
C'est formidable. Quelle chance. Est-ce que, justement, vous avez pu demander des conseils à votre grand-mère? Comment ça se passe quand on est sous le même toit?
Alors,
transmission de
Alors, génération. Évidemment, je lui ai posé des questions parce que j'avais envie de savoir si moi, j'étais dans le vrai ou dans le faux ou par rapport à son expérience. Et je me rends compte, soit elle a complètement oublié comment c'était à l'époque, soit c'était d'une fluidité, d'une simplicité sans nom. Je sais aussi qu'elle avait sa sœur et ses parents qui vivaient aussi dans la maison. Donc, elle avait ce soutien, ses aidants familiaux, elle aussi.
Oui, donc ça ne la choque pas ce qu'elle vit aujourd'hui.
Non, pas du tout. Et au contraire, elle aimerait faire plus. Elle me dit souvent qu'elle est un peu vieille maintenant. Et voilà. Je dis, mais déjà, rien que le fait de le prendre sur les genoux, le temps que j'aille aux toilettes ou me laver, vraiment, c'est une grande aide pour moi. Merci, mamie.
Et bon, est-ce que vous avez noté quand même des différences de mœurs entre sa génération à elle et vous?
Ah bah complètement, parce que moi, par exemple, j'allaite. Elle n'allaitait pas à son époque. C'était l'ère de la femme indépendante et qui donne le biberon.
Oui, c'est ça. On montrait qu'on était féministe en n'allaitant pas.
C'est ça.
C'était la liberté.
Exactement. Et du coup, souvent, elle me dit, mais pour qu'il dorme mieux et qu'il fasse ses nuits, pourquoi tu mets pas de la farine dans le biberon? Parce que j'ai pas de biberon. Voilà. Ou avec ma mère, par exemple, elle a découvert le porte-bébé, parce qu'avec le refuge, je le portais souvent en porte-bébé, et puis je marche beaucoup. Du coup, elle trouve ça génial et elle prend le porte-bébé, le bébé, et elle va faire ses petites marches avec et elle rattrape ce qu'elle n'a pas connu, elle, quand moi j'étais petite.
Ben oui, il y a quand même quelques frictions. De temps en temps, on se dit, 4 générations sous le même toit, un bébé qui fait du reflux, donc avec beaucoup de pleurs. Il n'y a pas des petits moments d'énervement?
Alors, je pense qu'on reste toujours dans le transgénérationnel avec les parents restent nos parents. Et du coup, il y a parfois ces petits moments où le rôle parental s'exprime. Et je le vois entre ma grand-mère et ma mère. Pourtant, ma mère a 54 ans, mais parfois, ma grand-mère... Elle se fait remettre à l'ordre. Et moi, c'est pareil avec ma mère. Je pense qu'on reste... C'est le bébé qui est un bébé, quoi. On reste toujours le bébé de sa maman.
Mais alors, votre grand-mère, il n'est pas qu'elle vous dit souvent, dis-moi, tu vas quand même retourner avec son père s'il revient, non?
Ça revient souvent. Elle a peur que je finisse vieille fille ou fille-mère, un petit peu comme elle le dit. Elle, pour elle, c'est un papa, une maman, le couple avec l'enfant. Donc, je suis obligée de lui dire non. Non. Voilà. Ça ne veut pas comme ça que ça va se passer. Ça a évolué depuis. Tu n'as connu qu'un homme. Nous, c'est plus comme ça.
Oui, c'est ça. Bon, oui, comme la lumière au bout du tunnel. Vous avez, donc, j'imagine, une organisation bien huilée aujourd'hui. Tout se passe bien?
Oui, j'ai embauché une garde à domicile. Comme ça, ça me permet de travailler déjà et à ma maman aussi de se libérer, de retrouver un peu plus ce rôle de grand-mère qui vient dépanner occasionnellement et plus non comme un père secondaire presque.
Oui, c'est ça. Ouais. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? On parlait de la lumière au bout du tunnel. Ouais. Est-ce que vous vous dites, tiens, j'ai quand même hâte de refaire ma vie. Parce qu'on se dit, vous êtes tellement dans un cocon, là.
Ah, je suis bien. Mais j'y pense pas du tout, c'est pas dans mes projets. Après, je veux pas me fermer la porte et me dire jamais je vais re-rencontrer l'amour ou je vais rester dans cette maison. En fait, je sais pas, je vais laisser faire la vie et aller là où le vent me porte. Mais c'est vrai que là, je me sens bien, j'ai une sécurité, je suis bien entourée, une famille aimante. Et je pense que c'est ce qu'il faut comme foyer pour un enfant. Il faut avant tout... De la paix et de l'harmonie au sein d'un foyer. Et je pense qu'il a tout ce dont il a besoin là. Oui. J'ai moi-même, je suis retournée quand j'ai eu besoin chez ma maman par le passé, entre deux déménagements ou des choses comme ça. Et s'il y a bien une valeur que je veux transmettre à mon fils aussi, c'est que ma porte, plus tard, quand il sera plus grand et indépendant, elle lui sera toujours ouverte. Et s'il ressent le besoin de revenir chez maman, il n'y a pas de souci.
Sophie Braun.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute, auteur entre autres du livre La tentation du repli. C'est aux éditions Mot Conduit. Quand on entend l'histoire de Marion, alors, franchement, ça fait rêver, quoi. C'est un peu à l'africaine. Moi, je me suis toujours dit, j'aurais adoré être africaine pour ça. C'est-à-dire, tout à coup, mon bébé vient, là, ma tante le prend, ma grande tante le change, ma mère fait les nuits, etc. Enfin, tout à coup, on a l'impression que c'est une affaire familiale. Mais est-ce que c'est pas un peu confusant pour l'enfant, parce que finalement, les figures d'attachement sont multiples. Est-ce qu'il arrive à faire la différence entre eux, sa maman et les autres, quoi, celles qui le gardent?
C'est la question, hein. Je pense que dans l'idée comme ça, vous auriez adoré. Dans la réalité, je suis pas sûre que vous auriez adoré.
Je me dis toujours, j'aurais pu aller au cinéma. Vous voyez ce que je veux dire, Sophie?
Alors,
sans poser de questions.
Non, la relation intergénérationnelle, elle est fondamentale, évidemment. Et que les grands-mères s'occupent des petits-enfants, que les arrière-grands-mères, maintenant, qui peuvent rester jeunes, s'occupent aussi des enfants, c'est très important. Maintenant qu'on habite tous sous le même toit, ça dépend de deux choses, des conditions matérielles, évidemment. Or, la plupart du temps, quand même, quand on retourne habiter chez ses parents, c'est parce qu'on a un petit problème matériel. Donc, on se retrouve souvent quand même dans des conditions petites, les uns sur les autres, et ça, c'est quand même compliqué au niveau de l'espace. Et après, il y a une question symbolique. La question symbolique, c'est effectivement qui sont les parents de l'enfant,
hein. C'est ça, ce sont les rôles, quoi, de chacun.
Voilà, qui sont de bien déterminer les rôles. Et on l'entendait, là, dans le témoignage de Marion. À un moment, elle dit, c'est le bébé qui a un bébé. Alors, effectivement, et elle le dit très, très bien, et je pense que c'est ça, l'écueil. Alors, elle a l'air de bien le traverser, mais c'est ça, l'écueil. Comment on fait? Quand on est avec ses parents, quel que soit l'âge qu'on a, on se retrouve dans un état d'enfant. Un peu. Voilà. Je pense que ça réactive les choses de l'enfance et les relations avec les parents. Donc, on a tendance à retrouver cet état d'enfant où on va être un peu passif et laisser les parents s'occuper de tout, y compris de ses propres enfants. Et là, ça devient confus. Moi, j'ai reçu des enfants qui pouvaient dire « maman » à la fois à la grand-mère et à la mère. Comme s'ils ne savaient plus vraiment quelle était la différence de rôle.
Ça, là, c'est faire attention.
Il faut faire attention parce que la généalogie, c'est ce qui nous ancre dans la vie et c'est ce qui nous ancre dans le temps. Si on veut bien comprendre, si on veut intégrer, c'est pas comprendre, c'est vraiment intégrer à l'intérieur de nous le passé, le présent et le futur, et ben ça se fait par le passage des générations. J'ai des arrière-grands-parents, des grands-parents, des parents, et moi je suis un enfant qui aura des enfants, qui, etc. Voilà. C'est comme ça qu'on apprend le temps. Si tout est confus, on va avoir du mal à apprendre le temps à l'intérieur de soi. Il y a une dimension temporelle
calmer
qui ne va pas se créer. Par contre, que la grand-mère garde l'enfant pour aller au cinéma, évidemment, qu'éventuellement on vive ensemble, des fois on est obligé, donc il faut le faire, mais il faut être très attention justement à respecter ces rôles-là et à ce que l'autorité parentale reste aux parents.
Alors, on a reçu une question en vidéo pour vous de Lauriane, regardez.
Bonjour la maison des maternelles. Je me demandais si le nombre de dépressions postpartum pouvait avoir un lien avec le fait que les noyaux familiaux vivent explosés par rapport à certaines cultures où les mères et grand-mères entourent beaucoup la jeune maman. Merci beaucoup de votre réponse.
C'est ce que vous disiez, Agathe, tout à l'heure.
C'est une bonne question. Je crois qu'on ne sait pas parce que maintenant, on est très attentif aux dépressions postpartum et à la qualité de vie des mamans après l'accouchement. On l'était beaucoup moins il y a encore une ou deux générations. Donc, est-ce que ça explose ou est-ce que ça n'explose pas mais qu'on n'y faisait pas attention? On ne sait pas. Après, bien sûr, quand on est en communauté, y a une chaleur humaine. Hein. Donc, chaque système a son revers. C'est évident que en Afrique ou dans les collectifs comme ça, l'enfant il est pris en charge, la maman aussi. C'est très chaleureux, c'est très agréable. Mais nous, on est dans une société aujourd'hui qui est beaucoup plus individualiste. Il n'y a pas de jugement à avoir
qui,
sur l'un ou sur l'autre.
Qui l'est devenu, parce qu'il y a une génération ou deux, ce n'était pas ça. Voilà. Nous, quand on était petits, en clair, ce n'était pas ça.
Voilà, mais qui le devient de plus en plus. Et ça, c'est un fait. Donc, on ne va pas pouvoir reculer, je crois. Par contre, effectivement, on peut essayer d'équilibrer avec un peu plus de collectif et ne pas laisser les mamans toutes seules, mais ne pas non plus tout confusionner et créer une immense fusion. Voilà, il va falloir qu'on trouve un équilibre entre les deux.
Donc, ça passera plus par la société que par la famille. C'est ça quand vous dites un peu plus de collectif?
Alors, la famille, ça crée la société interagit aussi sur les familles, donc ça fonctionne sur les deux. Mais je crois que dans chaque famille, il faut être attentif. Les mères se plaignent pas mal aujourd'hui du fait que les grand-mères travaillent encore, sont pas très présentes, sont pas très disponibles.
Ou n'ont pas forcément envie,
Ou n'ont pas envie parce qu'elles-mêmes vivent d'autres choses. Enfin voilà, donc je pense que là, il y a quelque chose effectivement à voir au niveau individuel, au niveau familial et puis aussi au niveau collectif. Alors par contre, peut-être les grand-mères s'intéressent moins ou sont moins présentes, les papas sont plus présents aujourd'hui. Hein. Et dans les couples, peut-être qu'on a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer aussi entre le rôle qu'avaient les grands-parents avant. Par contre, les papas sont beaucoup plus présents. Et moi, ça me paraît fondamental aussi, bien évidemment, sûr. Pour l'enfant.
La révolution par le père.
Voilà.
Elena dit, je vis avec ma fille et ma mère. Ma fille ne connaît pas son père, qui est parti sans la reconnaître, et n'a donc que des repères féminins à la maison. Est-ce un souci? J'imagine qu'il y a des repères masculins en dehors de la maison.
Alors, il y a toujours des repères masculins en dehors de la maison. Et dans ces cas-là, il faut aller en chercher, s'il n'y en a pas, parce que c'est important, évidemment, pour les enfants d'avoir les deux. Ensuite, aujourd'hui, on pense de plus en plus chaque individu comme étant un mélange de masculin et de féminin, un alliage de masculin et de féminin. Donc même un enfant qui vit dans un environnement uniquement féminin, il va quand même avoir du masculin. Hein. La définition pour moi la plus simple de ce que c'est le féminin et le masculin, qu'il ne faut pas confondre avec hommes et femmes, c'est celle de Winnicott qui dit « le féminin c'est être, le masculin c'est faire bon. ». C'est vrai, c'est pas vrai, peu importe. Chaque personne est un alliage de...
Ça peut être l'inverse, ça peut être de toute façon deux coparents, deux femmes, deux hommes, mais, dans ce triangle, il faut que chacun ait son rôle.
Absolument,
et sa place.
Voilà. Et on voit bien des fois des mamans qui sont même plus... qui amènent plus de loi et des papas qui sont plus tendres. Maintenant, on a un peu tous les cas de figure. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un bon alliage entre le être et le faire, on pourrait dire comme ça.
Léa vous dit « Je vis avec ma grand-mère qui dit qu'il faut laisser pleurer mon bébé, diminuer le portage, etc. Je ne l'écoutais pas avant, mais je finis par douter, sera-t-il moins autonome à cause de mes méthodes ?» Et moi, surtout, j'ajoute une question, c'est que fatalement, on est confronté aux méthodes d'avant, en étant avec des grands-parents, pas forcément au goût du jour.
C'est toute la question de vivre à plusieurs générations sous le même toit, c'est qu'on finit par ne plus se faire confiance. Et c'est bien ce qu'elle dit. Or, moi, je pense que ce qui est important quand on s'occupe d'un bébé, c'est de se faire confiance, c'est de sentir, parce que le bébé, il est tout à fait particulier, la maman, elle est particulière, elle le connaît bien, elle l'a eu dans son ventre, c'est nécessaire qu'elle se fasse confiance. Donc, c'est le problème, effectivement, quand on vit à plusieurs générations, c'est que c'est des méthodes éducatives qui ne sont pas les mêmes, on laissait pleurer les enfants. Il n'y a pas si longtemps, on les langeait, hein, on les tenait tout serrés. Aujourd'hui, on les éveille beaucoup, on les laisse libres, et donc il faut que cette maman se fasse confiance et qu'elle utilise ses propres méthodes et qu'éventuellement, elle n'hésite pas à dire à sa grand-mère, bah écoute, c'est très gentil de me raconter ce que tu faisais, mais ce n'est pas pour ça que moi, je vais faire la même chose.
Justement, on a une question d'Anita qui dit « J'habite un appartement sur le même palier que mes parents. Ma mère débarque à tout moment sans prévenir pour voir ses petits-enfants malgré mes remarques. Des conseils concrets pour poser des limites ?»
Ah oui, très concret.
Déménager, oui. C'est un camion, hop là, on fait ça un week-end. Ouais, mais bon.
Non, il faut que la grand-mère comprenne que tout le monde a besoin d'un espace vital, d'un espace à soi. Donc, il faut que cette maman mette éventuellement des serrures ou en tout cas qu'elle explique très clairement à sa mère qu'on ne rentre pas n'importe quand. On envoie un texto, on téléphone, on dit « est-ce que je peux passer ?» Alors, le risque, c'est quoi? C'est un risque de conflit. Mais ça veut dire qu'il faut accepter et assumer le conflit. Il va falloir qu'à un moment, cette maman se positionne face à sa mère et lui dise « non, c'est notre espace ». On vit des choses. C'est ce que font les ados. Hein. Les enfants, à un moment donné, les parents rentrent dans la chambre et un jour, ils disent « Non, mais ça y est, maintenant, tu frappes avant de rentrer. » Et puis, tu attends que je te dise oui ou non. Éventuellement, ils mettent un sens interdit,
oui,
hein,
oui, oui.
Voilà, un vert ou un rouge. Ouais. Et bien peut-être, concrètement, cette maman peut faire ça. Alors bien sûr, c'est difficile de se mettre en conflit avec sa propre mère, mais je crois que là, c'est nécessaire.
Au moins sonner, quoi.
Même pas, parce que sonner, elle va rentrer. Il faut vraiment qu'elle prévienne avant et qu'elle donne la possibilité à cette maman de dire oui ou non. Maintenant, tu peux passer ou tu ne peux pas passer parce qu'on est en train de faire une activité, on fait des choses ensemble ou on fait chacun des choses séparément.
Il y a l'intimité aussi
c'est
du
chez
couple,
nous.
Quoi.
C'est ça, il y a l'intimité du couple, il y a l'intimité des enfants. Et elle est très intrusive quand même, cette grand-mère.
Amina vous demande, qu'est-ce que les échanges intergénérationnels peuvent apporter de plus riche aux enfants? Parce qu'il y a quand même des bons côtés, là. On est un peu en train de détailler les mauvais côtés.
Non, c'est fondamental. Mais... c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les échanges intergénérationnels, c'est dur à dire, c'est pas forcément de vivre tous ensemble, c'est pas fusionnel. C'est très important pour les enfants de rencontrer leurs grands-parents, de rencontrer leurs arrière-grands-parents. C'est toute l'histoire de leur famille qui arrive. C'est toute la chaleur, c'est tout ce qu'on disait aussi. C'est le fait qu'on a confiance dans cette famille-là. Donc, elle va pouvoir s'occuper des enfants. C'est très chaleureux, c'est fondamental. Mais pas quand c'est fusionnel et pas quand c'est intrusif et pas quand ça mange le rôle des parents. Voilà. C'est de respecter le rôle de chacun et les espaces de chacun.
Doria vous dit « Je vis chez mes parents avec ma fille, je participe à toutes les charges, mais je ne paye pas de loyer. Ils s'en servent souvent comme argument. Dois-je l'accepter ou aller au conflit ?»
Alors ça, c'est une vraie question. La plupart du temps, quand on retourne habiter chez ses parents, c'est effectivement pour des questions financières. Et il ne faut pas être naïf, ça crée un rapport de force. Ça crée un rapport de force entre les parents qui payent le loyer et cette jeune femme qui retourne habiter chez eux. Donc, c'est très compliqué. Bien sûr qu'il faudrait qu'elle prenne le risque du conflit, mais en même temps, on comprend bien que c'est difficile pour elle parce qu'elle est dans un rapport de force financier. C'est souvent le cas et ça crée justement des interférences dans les relations qui sont très compliquées. Si on imagine qu'elle a, je sais pas, 30, 35, peut-être plus, bah c'est très compliqué de se retrouver à l'état de dépendance financière de ses propres parents, alors qu'on a soi-même des enfants.
Bien sûr.
Donc là, on est sur des situations très difficiles et il faut qu'elle essaye de tenir sa place, d'imposer un conflit, mais évidemment pas de façon trop brutale, parce qu'elle a besoin d'eux. Et on est au cœur de la question, là, vraiment.
Bien sûr.
Camille nous dit « Séparée durant la grossesse, je suis retournée chez mes parents et j'accouche dans un mois. Je ne sais pas qui choisir à mes côtés le jour J, ma maman ou le papa du bébé quand même ?»
Alors déjà, je pense qu'il faut déjà qu'on constate que les gens de plus en plus disent « ma maman et mon papa » au lieu de dire « mon père et ma mère ». Je pense que ça raconte quelque chose déjà, symboliquement. Hein, comme si on se remettait dans des états d'enfance. Mais même aujourd'hui, des acteurs, des hommes politiques qui parlent et ils disent « ma maman ou mon papa » à 50 ans ou 60 ans. Moi, je suis déjà assez troublée par ça. Bon, ça,
c'est marrant, ça me fait toujours... Alors, par exemple, en Belgique, c'est perçu comme très violent de dire « mon père, ma mère ».
Ah bon ?
Oui, oui. Alors, tu dis « et ton papa ? Et comment va ton papa ?» Même quand, en plus, la personne ne le connaît pas ou l'a jamais vu. C'est très... je sais pas.
C'est bizarre, il y a quelque chose d'assez infantile là-dedans, ouais. Hein, je trouve, de retourner à l'état d'enfant.
Il y a même des gens qui ne mettent pas le mot ou ma, qui disent maman.
Maman,
en parlant,
voilà.
En parlant. Maman travaille.
Alors ça, c'est éducationnel, en revanche.
Ouais.
Ça, c'est dans, dans certains milieux, ça ne se fait pas dire à ma mère, on dit maman.
Mais voilà, enfin, je trouve qu'il n'y a pas très longtemps, on disait mon père, ma mère, aujourd'hui, on dit ma maman, mon papa, et il y a quelque chose qui nous ramène un peu à l'enfance et à l'infantile. Alors, après, il y a deux questions. Si on se place du point de vue de la maman, là, justement, qui va accoucher, comme elle vient de se séparer de son compagnon, c'est certainement plus facile pour elle que ce soit sa mère, c'est plus rassurant. Si on se place du côté du bébé, je pense que symboliquement, c'est important qu'il y ait son père et sa mère. Si le père souhaite être à l'accouchement, c'est important pour le bébé que symboliquement, le père puisse être à l'accouchement. Voilà. Mmh. Donc, on a deux positionnements différents selon ce que l'on regarde. Et
selon la relation entre les deux ex-conjoints. Quoi.
Voilà, c'est vrai qu'ils viennent de se séparer, ça peut être compliqué quand même que le père soit à l'accouchement. Mais du point de vue du bébé... il vient d'un papa et d'une maman. Le papa, si le papa est d'accord pour s'en occuper et être là, c'est important aussi peut-être qu'il soit à l'accouchement. Donc, ça ne raconte pas la même histoire si c'est la maman ou si c'est le papa, bien sûr.
Damien vous dit, nous vivons avec mon grand-père. Mon fils pose des questions sur sa mort depuis qu'il a compris que c'était lié à l'âge. Il adore son arrière-grand-père, donc ça l'angoisse. Comment en parler avec lui ?
Alors, ça c'est une question plus large, hein, sur la question de la mort. Il y a plein de réponses possibles. Dolto disait qu'il faut dire aux enfants que la mort arrive quand la vie est finie. Je crois que c'est tout simple, mais c'est vrai.
C'est pas mal.
Hein, voilà. La vie est finie, donc à ce moment-là, on meurt.
Elle est bien, cette Catherine.
Oui, elle est bien. Hein. Après,
c'était
oui, c'était Françoise, mais Catherine, bon, Catherine aussi.
Les deux sont bien. Catherine, non, mais,
alors justement,
plus,
là, voilà, on est...
Patrick Dolto aussi, sympa. Vous connaissez, non hein Patrick Dolto.
Et après, il y a plein de façons de répondre. D'abord, il faut dire, je crois que cet arrière-grand-père est très vieux, que les gens meurent aussi, ça rassure les enfants quand ils sont très vieux, et c'est normal qu'on meure quand on est très vieux.
On meurt de vieillesse.
On meurt de vieillesse, donc ça c'est rassurant pour l'enfant. Que les parents aussi, ils vont devenir vieux, ils vont mourir vieux, etc. On n'est pas obligé quand on a un petit enfant de lui raconter qu'il peut y avoir des accidents, etc. Il aura le temps de
l'apprendre. La sécurité routière, tu as entendu parler.
Il va apprendre ça tranquillement. Après, moi j'aime bien, il y a des livres aujourd'hui qui racontent aux enfants toutes les différentes croyances qu'on a autour de la mort. Parce que nous, on est dans une vision quand même assez angoissante. C'est-à-dire qu'on dit, ben, après, pour la plupart des gens qui ne sont pas religieux, on dit, après la mort, il n'y a rien. Ce qui est quand même assez angoissant et ça fait une séparation terrible. Il faut quand même se souvenir et peut-être raconter aux enfants qu'il y a la moitié de l'humanité, ou peut-être plus, qui croit en la réincarnation, donc qui croit qu'il y a une âme et un corps et que l'âme, elle va se réincarner. Donc, dans ces cas-là, la mort, ce n'est pas complet, ce n'est pas plus rien derrière. Moi, ce que j'aime bien dire aussi aux gens d'une façon générale, pas que aux enfants, c'est qu'on n'est pas très angoissé de ce qu'on vivait avant d'être né. Ça ne nous angoisse pas, ce qu'il y avait avant. Alors, pourquoi est-ce que ça nous angoisserait ce qu'il va y avoir après ? Et j'ai lu une très jolie phrase l'autre jour qui dit « La mort, ce n'est pas le contraire de la vie, c'est le contraire de la naissance ». C'est intéressant.
Oui, oui.
Parce que si on se dit ça, ben, c'est beaucoup moins angoissant. Après, dernière chose, les angoisses, c'est aussi ce qui fonde l'humain. Donc, que les enfants soient angoissés par la mort, c'est aussi ce qui leur apprend que le temps de la vie est court, ou en tout cas qu'il est fini, il est long mais fini, et que donc il va falloir faire des choses aussi dedans. Si on se disait qu'on est éternel, je crois qu'on ne ferait rien. On serait tous au lit en se disant « je ferai demain hein, » ou « je ferai dans 1000 ans ». Voilà. Donc...
Oh l'embellie. Pardon, hein, mais vous me faites rire.
C'est bien parce qu'on sait qu'on va mourir et parce qu'on est angoissé parce qu'on va mourir qu'on fait quelque chose de nos vies. Donc l'angoisse, il ne faut pas non plus essayer de la faire disparaître complètement.
Merci à Sophie Brown, c'est toujours un plaisir de l'accueillir dans la maison des maternelles. Et merci à Marion d'avoir accepté de se raconter. On se retrouve demain sur les réseaux sociaux. D'ici là, en podcast quand vous voulez, même la nuit, n'hésitez pas. Et puis à l'antenne de France 2. À 9h30 sur France 2, comme tous les jours de la semaine. Ciao tout le monde.